Oui, alors bougez pas, hop là, c'était ce message de Bob White qui disait « on vous sent hypersensible », mais cette sensibilité, elle vous joue des tours, elle-même semble être perdue et c'est pas bon signe, elle revient, puis repart, elle joue avec vos sentiments, et puis aussi peut-être même avec les sentiments de l'autre homme. Soyez plus direct et plus clair avec vous-même.
Oui. Il faut, pour le moment, il vaut mieux. Bon, heureusement, elle revient pas trop. Mais voyez, là, la priorité, c'est vous maintenant, Stéphane. Il faut vous retaper. C'est tout mettre en place pour aller mieux. Et vous allez y arriver. Et pour le moment, il vaut mieux ne pas trop la voir. D'accord? Prenez soin de vous.
Je reprends les clés. Est-ce que c'est une chose à faire?
Oui, c'est une chose à faire. Et qu'elle vienne pas vous les déposer en main propre, qu'elle vous les dépose. Bon courage à vous.
Oui, puis merci à vous.
Mais je vous en prie. Au revoir, Stéphane.
RTL.
Belle nuit à l'écoute de RTL. Il est minuit. 24 heures d'info avec Aude Vernuccio.
Les cours reprennent ce jeudi au collège Françoise Dolto à Nogent, en Haute-Marne, après le meurtre d'une surveillante tuée par un élève de 14 ans. Le procureur de la République de Chaumont en a dit plus en conférence de presse sur le profil du suspect. Un jeune fasciné par la violence qui jouait à des jeux vidéo violents et qui ressassait son projet depuis samedi dernier. Il comptait s'en prendre à une surveillante, n'importe laquelle. Mardi matin, il a ramené au collège un couteau de cuisine de 34 cm. Face aux enquêteurs, il n'a exprimé aucun regret, aucune compassion, d'après le procureur. Face à cette violence, le gouvernement promet des mesures si le Premier ministre envisage l'installation de portiques de sécurité à l'entrée des établissements scolaires. Le ministre de la Santé dévoile un plan santé mentale des jeunes. Il veut doubler le nombre de personnes formées au secourisme mental d'ici 2027, propose des consultations sans rendez-vous dans les centres médico-psychologiques pour les jeunes. Il veut aussi renforcer mon soutien psy pour rembourser plus de consultations aux jeunes. Enfin, il se dit favorable à l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Mohamed Amra, de retour dans sa cellule ultra sécurisée à Condé-sur-Sarthe. Il en a été extrait pour être entendu 3 heures par les juges chargés de l'enquête sur son évasion sanglante en mai 2014. Deux agents pénitentiaires avaient été tués au péage d'Incarville. Le narcotrafiquant n'a pas souhaité répondre aux questions sur l'affaire. Il a juste évoqué ses conditions de détention. La marque d'ameublement Casa, placée en liquidation judiciaire, aucune offre de reprise n'a été jugée recevable par le tribunal de commerce. 143 magasins sont concernés en France et 700 salariés. La Banque de France abaisse ses prévisions de croissance à 0,6% au lieu de 0,7% pour 2025. Le gouverneur François Villeroy de Gallo évoque le climat incertain, notamment sur les droits de douane américains. Une bonne nouvelle relative, les États-Unis envisagent de prolonger la pause sur ces droits de douane réciproques. Si les négociations sont de bonne foi, les discussions entre Bruxelles et Washington se sont tendues à plusieurs reprises. La pause doit prendre fin le 9 juillet. Et puis le cofondateur du célèbre groupe de musique The Beach Boys est décédé, Brian Wilson, 82 ans, interprète de tubes comme I Get Around ou Surfing USA. La famille dit savoir qu'elle partage sa peine avec le monde entier dans un communiqué. La météo, 4 départements du sud-ouest en vigilance orange aux orages, la Gironde, les Landes, le Gers et le Lot-et-Garonne. Retour au calme sur le nord-ouest ce jeudi. Quelques ondées entre l'Île-de-France et le centre. Une averse orageuse possible sur l'Auvergne et sur les Alpes du Sud. Les températures comptaient de 10 à 15 degrés sur le nord-est, de 15 à 20 ailleurs. L'après-midi, vous aurez de 20 à 25 degrés près de la Manche, de 27 à 33 degrés sur le reste du pays. Et puis les courses à Longchamp, les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, l'As, le 4, le 10, le 14, le 9, le 7 et l'outsider de RTL, c'est le 10, Alabama Moon.
RTL, 24 heures d'info. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Vous êtes les bienvenus pendant une demi-heure encore au standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11, numéro que vous pouvez également composer si vous souhaitez dialoguer avec un intervenant à l'antenne. C'est très simple, 09 69 39 10 11, vous tombez sur Paul et ou Violaine, et puis bah, comme ça vous pouvez poser des questions ou proposer votre soutien ou partager votre expérience avec nous.
someone else inside.
Les Rolling Stones sur RTL et ce succès de 1976, Mélodie.
Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue.
Oui, je vous remercie de me recevoir à l'antenne. Voilà, je voudrais parler de ma maman. Enfin, j'espère que je vais bien parler puisque je suis un peu... Bon, voilà, j'espère que... Voilà. Voilà, je voudrais parler de ma maman puisqu'elle a été mise en état contre son gré il y a 2 ans. Elle subit énormément de maltraitance. Mes frères et sœurs sont au courant. Ils ne font rien. Je leur ai envoyé à ma sœur qui est tutrice des lettres en lui expliquant ce qui se passe. Malgré tout, ils savent quand même ce qui se passe, mais ils ne font rien. Ma maman, elle pleure quasiment tous les jours. Je vais la voir tous les jours de 17h à 21h. J'ai déjà écrit à la cadre de santé, au procureur, à l'ARS, sans réponse. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'elle subit comme maltraitance.
Alors dites-moi, Marie, déjà vous me dites, elle a été placée en EHPAD contre son gré, c'est-à-dire oui. Comment ça s'est... Comment la décision a été prise?
En fin de compte, on est à plusieurs frères et sœurs,
oui.
À 7. Oui. Donc ce qui s'est passé, c'est que ma maman, elle était chez elle. Et puis, certainement qu'elle a tombé, je ne sais pas, elle a eu mal. Elle a été aux urgences. Donc, ils ont trouvé qu'elle avait, qu'elle s'était cassée le col de l'fémur, excusez-moi.
Oui, je vous en prie.
Donc, suite à ça, elle a eu une opération. Après, elle a été en gériatrie quelque temps. Automatiquement, ils ont dit qu'elle ne pouvait plus rentrer chez elle.
Oui, oui.
Et moi, je voulais m'en occuper de ma maman, puisque j'allais déjà tous les 15 jours, 3-4 jours m'en occuper, comme je suis libre.
Oui.
Donc, je pouvais me libérer comme je voulais, je n'avais pas d'attache. Et puis, quand j'ai posé la question à mes frères et sœurs que je voulais m'en occuper, il y en avait qui disaient oui, d'autres non. Et puis, en fin de compte, elle a quand même rentré à l'EHPAD. Et au bout de 2 jours, j'ai fait le nécessaire pour qu'elle sorte, pour que je m'en occupe.
Mm-hmm.
Et puis là-bas, le médecin, il a dit comme ça, il faut que vous réunissiez vos frères et sœurs, puisque ma maman ne peut pas sortir comme ça. Tout en sachant qu'au début, qu'il y avait pas, ma sœur, elle n'était pas encore tutrice. Voilà. Donc, j'ai fait des réunions avec mes frères et sœurs. Et puis, tout le monde n'était pas d'accord parce qu'ils me disaient que j'étais trop âgée. Qu'à ce moment-là, j'avais 66 ans, je pense que je n'étais pas âgée.
Mais
non. J'avais des animaux. Ils ont trouvé aussi comme excuse, comme je ne mange pas de... Enfin, je suis végétarienne. Oui. Ils avaient peur que je ne donne pas à manger à ma maman.
Vous êtes végétarienne, mais tenir compte. Oui.
Oui. Mais pourtant, ils ne s'inquiétaient pas quand j'allais tous les 15 jours. Ils ne se sont jamais inquiétés si j'étais végétarienne ou pas végétarienne, forcément. Et puis.
Mais pourquoi ils ne voulaient pas? Parce que souvent, justement, dans les familles, quand il y a quelqu'un qui est. Une personne de la fratrie qui est disposée à prendre soin du parent, généralement. Finalement, les autres, même ça les arrange souvent.
Mais non, ils ne voulaient pas.
Et pourquoi, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez de leur réaction? Pourquoi ils ne veulent pas?
Je ne sais pas, mais tout en sachant qu'avec mes frères et sœurs, c'est déjà... Enfin, vous savez, on était à 7, c'était pas les grands amours, vous savez.
Oui.
On se voyait, on disait bonjour, point final. Mais j'étais quand même une personne qui n'allait pas quand même chez mes frères et sœurs, vous savez.
Vous n'étiez pas liés, pas proches.
Non. Et puis le fait que je n'étais pas en couple, donc, vous savez, on ne m'invitait pas parce que je n'étais pas en couple, parce que
c'est pas une raison de pas vous inviter.
Oui, puisque c'est quand même.
Ils sont tous dans le côté plus traditionnel, couple, enfant.
Ils sont en couple. Et
vous avez toujours été un peu à part. Vous êtes malheureusement toujours.
De toute façon, j'ai toujours été à part. Voilà.
Oui, je comprends.
Voilà.
Mais qu'est-ce qu'elle en dit, votre mère, elle, de ça? Parce qu'elle avait son mot à dire aussi.
Quand il y a 2 ans, quand ma maman est rentrée, elle avait encore quasiment toute sa tête. On va dire qu'elle avait, par exemple, 20% d'Alzheimer. Vous savez, on a toujours un petit peu. Et au fur et à mesure, là, en ce moment, par exemple, elle est arrivée, par exemple, on va dire à 80% d'Alzheimer. Vous savez.
Ah mince, elle a quel âge aujourd'hui, votre maman?
Elle a 91 ans.
Ah oui, donc oui, il y avait un début d'Alzheimer et malheureusement la maladie gagne du terrain. Oui.
Mais quand elle est rentrée, automatiquement, elle n'avait pas l'Alzheimer comme un peu tout le monde. On perd la mémoire, hein, puisque
vous savez. Ah, c'est pas pareil. Non. C'est pas pareil. Avoir des petits troubles cognitifs ou perdre la mémoire, c'est une chose. Mais la maladie d'Alzheimer, bon.
Mais tout en sachant que lorsqu'elle a été mise en EHPAD, de toute façon, quasiment tous les jours, puisque moi je vais la voir tous les jours.
Oui, vous allez la voir tous les jours.
Oui, je vous assure, tous les jours.
Oui, c'est bien. Alors, ça veut dire que c'est à côté de chez vous, l'EHPAD?
3 kilomètres, kilomètres.
Et est-ce que vos frères et sœurs vont voir votre mère?
Soi-disant qu'ils y vont quand même, une fois de temps en temps.
D'accord.
Mais pour vous dire un exemple, vous savez, mettons, à Noël, personne vient. Nouvel An, personne. Anniversaire, ma maman, personne. Fête des mères, personne. Ils y vont quand ça les arrange, de temps en temps. Puis les sites, là-bas, vous savez, avec le personnel, il y en a qui sont quand même sympas. Donc, je sais quand même quand ils viennent ou quoi.
Oui, c'est ça.
Je fais des petites remarques. Je m'aperçois certaines choses que je m'aperçois s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas.
D'accord. Et alors, vous me parliez, donc, vous me dites que vous avez constaté des actes de maltraitance. Que se passe-t-il, alors? Qu'avez-vous constaté?
Des bleus, des ouvertures sur ses bras. Et je me suis aperçue, puisque, quand je faisais certains mouvements, la peur, où elle mettait ses mains devant sa tête. Et là, dernièrement, puisque la maltraitance, je me suis aperçue il y a un an. Voilà. Oui. Quand elle a eu ses premiers bleus. Et puis, elle me parlait, elle me disait ça, puis elle me cachait ses bras. Voilà.
Donc, c'est pas lié, on lui a pas mis de perfusion. Vous ne l'avez pas vu avec des perfusions, choses comme ça.
Lorsqu'elle a eu ses bleus, j'ai demandé à certaines infirmières sont plus ou moins sympas. Je dis, ma maman, elle a eu une prise de sang, quoi que ce soit.
Oui, voilà.
Alors, on me dit non.
Oui.
Je dis qu'elle a un bleu.
Oui.
On ne sait pas.
On ne sait pas s'il faut regarder.
Personne ne sait. Et puis, j'avais écrit aussi à la cadre de santé. Je l'avais vu, j'avais prévenu que ma maman avait des bleus. Elle m'a dit, on en parlera au docteur, mais j'attends toujours la réponse.
C'était quand ça? C'était il y a un an?
Il y a un an.
Non, mais c'est pas normal, ça.
À la cadre de santé, ça fait trois lettres commandées que je lui envoie. Et puis, où je la voyais entre deux dans le hall, où je montais à son bureau.
Oui.
Et une fois, elle m'a dit comme ça, écoutez, Madame Lefebvre, je commence à en avoir marre, je ne veux plus que vous me faites des remarques comme ça, il faut passer par votre sœur qui est tutrice. Alors, je lui dis, écoutez, mes frères et sœurs...
Ah, une de vos sœurs est tutrice maintenant.
Oui, maintenant elle est tutrice. Et je fais comme ça la carte de santé, écoutez, mes frères et sœurs, je claque dans les mains en voulant dire qu'ils sont balancés de ma maman. Je dis, c'est moi qui viens chaque jour voir ma maman, je vois ce qui se passe.
Ben oui, c'est vous qui êtes présente et du coup, ça ennuie beaucoup les équipes, ça. Et en même temps, c'est pourtant indispensable parce que s'il n'y a pas de suivi, il peut y avoir une forme d'abandon.
J'aimerais bien aussi raconter dans la maltraitance.
Oui.
Ma maman, on lui garde la couche du matin jusqu'au soir, automatiquement. Elle est bien imbibée de.
Ah, mais c'est pas normal, ça.
Non, mais je vais vous raconter aussi quelque chose, vous voyez, puisque quand j'arrive à 5 heures...
Ça, c'est un signe de négligence.
Oui. Elle est assise sur son fauteuil, ça a traversé le fauteuil.
Non, c'est pas normal.
Ça. Je préviens l'infirmière
et
je lui dis, ma maman, on peut la rechanger, ça a traversé.
Oui.
Il est 5 heures, 17 heures, elle me dit, oui, je fais le tour, je reviens. Je n'ai jamais revu personne, je les revois à 20 heures. Et plusieurs fois comme ça.
Non, mais on ne met pas... alors, ça, c'est soit On constate dans le, enfin, on en a beaucoup parlé hein, du scandale des EHPAD et notamment de Orpea et les livres qu'il y a eu, les fossoyeurs. Alors, soit souvent, il y a une question évidemment de manque de personnel, mais il y a aussi des questions économiques. Il y a un cynisme terrible, c'est-à-dire que parfois justement, ils font de l'économie sur des protections. Sur la nourriture. Donc, si vous dites que votre maman, il y a une protection qui est mise le matin et on lui enlève que le soir, je suis désolée, ça c'est de la négligence.
Et quand je le dis aussi pour la protection, quelquefois elle est assise sur le siège, vous savez.
Après, ça fait des escarres, ça m'asserre, enfin non.
Oui, elle dort, alors quand je dis comme ça, est-ce que vous pouvez coucher ma maman comme elle dort sur le siège, on me répond, ben non, aujourd'hui on commence du côté gauche, on va pas commencer du côté droit, en voulant dire, vous savez, si ma maman elle est dans la... Voilà.
On voit le côté robotisé, où il y a certainement pas assez de personnel. Donc,
reconnais.
Je suis désolée. À un moment, voyez, par exemple, vous dites, donc ils mettent les personnes sur le fauteuil parce qu'il faut un peu qu'elles ne restent pas toujours au lit, justement, pour stimuler un peu, qu'il n'y ait pas de problème d'escarre. Mais après, elle dort. Normalement, le confort ferait dire, bon, maintenant elle s'est endormie, on va la remettre un peu dans son lit, elle sera mieux. Et en fait, on vous répond côté droit, côté gauche, quoi.
Déshumanisé. De mes propres yeux, je l'ai vu, puisque j'ai pris des vidéos, des photos de tout ce qui se passe. Quelquefois, il y a des personnes qui dorment sur le fauteuil et je les ai vues tomber de leur fauteuil. Je vous assure que c'est vrai.
Oh là là.
Oui. Et aussi, je vais raconter aussi quelque chose sur la nourriture. Ma maman, quelquefois, on lui donne une soupe. C'est une soupe aux champignons. Avec un yaourt nature, sans sucre.
Oui.
Quand je demande du sucre, une fois j'ai demandé du sucre, il ne m'avait pas vu, j'étais sur le côté.
Oui.
Alors je vais voir une petite aide-soignante, je dis, est-ce que ma maman elle peut avoir du sucre dans son yaourt nature? Et elle, donc, c'était à trois, mais les deux autres personnes ne m'avaient pas vu. Donc, la petite jeune fille qui m'a donné le sucre, elle dit aux deux autres, la prochaine fois, quand vous donnerez un yaourt nature, n'oubliez pas le sucre. Il y en a une des deux qui répondent à la cale mélangée avec sa compote.
Oh là là là.
Et vous savez, même des gâteaux, c'est pareil, des gâteaux le soir, quelquefois, parce qu'il y en a qui sont très, 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 très gentils. Attention, il y en a qui ont une gentillesse incroyable.
Mais oui, mais bien sûr, individuellement, mais qui sont malheureusement, certainement malheureuses d'être dans ce prison, ce système.
Une fois, c'était pareil. Le soir, ma maman, elle aime bien quelquefois un petit gâteau, comme ça.
Donc,
je demande à une aide-soignante, est-ce que ma maman, elle peut avoir un petit gâteau ce soir? Elle me dit, ce n'est pas marqué sur le repas du soir. Je dis, oui, mais il y en a qui le donnent. Alors, j'étais en colère. Alors, elle me dit, non, je ne vous donnerai pas, ce n'est pas marqué. Je lui réponds, mais c'était compté sur votre salaire. Elle me dit, écoutez, Madame Lefebvre, ne soyez pas si agressive. Je lui réponds, ben oui, c'était compté sur votre salaire. Mmh. Et on m'a dit que j'étais irrespectueuse avec le personnel.
Oui, parce que vous les ennuyez.
Oui.
Évidemment, hein, vous voyez, vous êtes là, vous pointez. Vous pouvez pas lui prendre des petits gâteaux qu'elle pourrait avoir un peu dans sa table de nuit,
gâteaux,
enfin. Bah oui, qu'elle ait des
petits chocolats
petites,
comme ça. Il faut on paye quand même assez cher, on paye 8,5.
Oui, bien sûr. Combien vous payez? Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais pour votre maman, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut le faire, voyez, d'abord. Vous payez combien?
2004, on l'est 2004, 2005, par mois.
Mais, 2004, 2005, et on lui met une protection par jour.
Oui.
Et on est le sucre, il faut mélanger. C'est scandaleux, comment, la façon. Enfin, moi, à chaque fois, ça me révolte, puis ça me bouleverse.
J'ai toutes les photos.
Mais je vous crois. Non, mais je trouve ça, c'est tellement indigne.
Et vous savez pas sur quoi qu'elle mange. Bon, elle mange sur une table. Et automatiquement, comment c'est qu'on peut appeler ça une table? Vous savez, quand elle mange dans la chambre, la table, les pieds de table, ils sont rouillés, archi rouillés. Et la table n'est pas nettoyée. Il reste, je vous assure, en dessous de la table, il reste du manger collé.
Quelle tristesse.
Comment, les timbales ne sont pas changées tous les jours, le brouhaha non plus. Et j'en avais déjà parlé à la cadre de santé, elle me dit que c'est impossible. Donc, une fois j'arrive, le bro était tout sale, mais vous avez cité parce que quelquefois, ils mettent de la soupe dans un bro. Il restait certainement que le bro n'avait pas été
nettoyé. Oui, oui, et puis derrière, ils mettent, ils ne passent même pas un coup d'eau, ils ne passent pas un petit coup d'eau, voilà, et hop, on remet l'eau dedans. Quoi.
Voilà, et justement, c'est terrible. Je vois la cadre de santé, je dis, ben, ça tombe bien, je dis, j'ai quelque chose à vous faire boire. Eh bien, comment, j'ai été lui faire boire le bro, et comment elle me dit, ah oui, ben là, je le vois ou quoi que ce soit. Jusqu'à du sirop dans l'eau que j'ai du mal à voir. Dans... Un coup, il y a une dame qui me dit, écoutez, Madame Lefebvre, vous n'avez qu'à l'amener le sirop. Mais je dis, écoutez, on paye quand même assez cher. Hein. Et aussi, une autre petite chose. Ben, la première année qu'elle est rentrée, elle est rentrée en août 2023, elle a eu une infection urinaire. Elle est restée plusieurs jours comme ça avec son infection urinaire. Et j'ai un de mes frères qui était là à ce moment-là. Je prenais des vidéos, il n'était pas content. Et puis quand je le disais à l'infirmier, aux aides-soignantes, ils m'ont dit « Oh ben oui, mais votre maman, elle ne se plaint pas. » Voilà. Et ma maman, elle avait mal. Et bon,
C'est tellement facile, oui. Et justement, il faut être attentif, c'est-à-dire que chez des personnes comme ça, il n'y a pas forcément de plainte, mais on le voit à des expressions du visage, à des positions, à des... Vous savez, malheureusement, c'est une situation qui est... qui est trop connue, j'ai trouvé... Non mais alors vous avez écrit à l'agence régionale de santé. Voilà. Bon alors c'est très bien, mais est-ce que votre maman avait un médecin traitant?
J'avais été le voir tout au début et bien il m'a fait comprendre que je n'avais rien à dire.
Comment ça?
Parce que voilà, parce que lui peut se
mettre en lien avec le médecin de l'EHPAD.
Non.
Pourquoi vous n'avez rien à dire?
Je n'avais rien à dire, comme c'était ma sœur qui s'occupait à ce moment-là.
Ah oui, il se réfugie derrière cela. Mais aussi, alors, votre sœur, pardon Marie, parce que je vois qu'il est minuit 27, bientôt 28. Vous savez, je dois rendre l'antenne.
Justement, sur la maltraitance. Écoutez, je veux vraiment vous le dire, ma maman, quand elle a eu une infection urinaire, elle a eu pendant 4 jours une ovule. Sur... Il y a deux filles, quand ils ont mis l'ovule de ma maman, qu'elle a crié, quand ils sont sortis de la chambre, je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ma maman, elle a crié. Il y en a une qui me répond, votre maman, elle est tenace, elle serre ses cuisses.
Oh, ben ouf. C'est terrible, parce qu'évidemment, une dame de cet âge-là, elle a peur, elle comprend pas, il faut prendre le temps aussi d'expliquer, et puis, évidemment, ça fait mal aussi, les muqueuses sont très sèches, enfin, c'est terrible, enfin... Ça fait peur de se dire de devenir vieux et dépendant dans une société qui traite les personnes âgées de cette façon-là. C'est tellement indigne en fait. Je cherche, vous savez, il y a le numéro ALMA, le numéro pour les maltraitances.
J'ai téléphoné.
Vous avez appelé. Oui.
Au début, ils m'ont jamais rappelé.
Mais il faut les relancer. C'est une association de bénévoles aussi, vous savez. Ils sont dans le 12e arrondissement à Paris.
Ah oui, moi j'avais...
Vous vous démenez... Mais alors, c'est votre sœur, c'est à votre sœur, il faut lui faire une lettre. Voici ce que j'ai constaté pour notre mère. Voici ce que j'ai constaté, noir sur blanc. Et dire copie jointe à l'ARS. C'est à votre sœur aussi qui est tutrice, hein, de faire valoir tout ça. Que fait-elle?
Rien du tout, elle me répond même pas. Vous savez, la carte de santé, l'histoire que ma maman, qu'on lui a mis un ovule par force, ben pour moi, j'ai dit comme ça, ma sœur, à la carte de santé, c'est comme si que ma maman, qu'on l'a violée.
J'entends ce que vous dites, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut des gestes très doux avec les personnes âgées. Pour la toilette, il faut leur parler avant. Et tout ça, ça demande beaucoup de temps. Donc, bien sûr, un ovule introduit dans son sexe, oui, si on prend pas le temps de lui expliquer, si on l'attrape, qu'on lui écarte les cuisses, ben oui, votre maman, elle se défend, elle serre les cuisses, elle a peur. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que même le personnel, ils le disent, ils peuvent en devenir maltraitants, alors que c'est pas du tout leur intention, mais parce que, faute de temps, faute de personnel, il doit faire très vite. Quand on doit faire une toilette pour une personne âgée en 7 minutes, ben forcément, on la brutalise, la personne âgée. C'est tout ce système qui est à revoir et qui, malheureusement, on le voit à travers votre témoignage, perdure. Que vous dire, sinon qu'on est de tout cœur avec vous et que vous avez raison de ne pas vous laisser faire pour le bien-être de votre maman. Et relancer l'ARS et votre sœur. Bon courage, et en espérant que vraiment les choses vont bouger. Je vous embrasse, Marie. Je vous embrasse. C'est fini, c'est triste de terminer sur un témoignage comme cela. Il reste tant à faire. Passez une très belle nuit, et puis on sera de retour, bien sûr, ce soir, à partir de 22h.
Dans l'histoire.
Avec Laurent Deutsch, la rediffusion.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Hitler et Röhm. Röhm et Hitler. C'est l'histoire d'une grande et belle amitié qui finira dans le sang. Oui, c'est l'histoire de deux soldats, deux militants, deux hommes de pouvoir que tout rapproche et qu'un jour, tout va opposer. Amis à la vie, mais aussi amis à la mort. Bien sûr, si le nom d'Adolf Hitler est passé à la postérité, hein, pas forcément pour le meilleur, celui d'Ernst Röhm est en revanche complètement tombé dans l'oubli. Et pourtant, Ernst Röhm, c'était l'alter ego d'Hitler, le camarade de tous les combats, un camarade qui va devenir gênant. Cet homme autoritaire et violent va devenir infréquentable, dangereux même. Alors, comme cela se fait entre chefs de bande, la violence a été convoquée pour régler le différend. D'un côté, Röhm et ses sections d'assaut, les tristement célèbres SA, une véritable armée. De l'autre, Hitler, la Wehrmacht et les conservateurs, une autre armée. Dans le mot « national-socialiste », Hitler a retenu « national », quand Röhm, lui, a choisi « socialiste ». Et le socialisme, c'est ce qui fait peur à beaucoup d'Allemands. Alors, Hitler va trancher dans le vif. Il va organiser méthodiquement le plus grand bain de sang imaginé par un dirigeant politique à l'époque contemporaine, c'est-à-dire l'élimination physique de centaines d'hommes, tous des compagnons d'armes, qui ont, selon lui, perdu le droit de vivre. Alors, sans plus attendre, partons sur les bords du Rhin pour revivre ensemble cette nuit tragique où la réalité a dépassé la fiction, la nuit des longs couteaux sur RTL. Nous sommes le samedi 30 juin 1934. Il est bientôt 6h du matin quand Adolf Hitler quitte Munich. Accompagné d'une quinzaine de fidèles, il prend la route de Bad Wiessesee, sur les bords du lac Tegern. Nous sommes à la frontière de la Bavière et de l'Autriche. Hitler n'a pas dormi de la nuit et il est encore plus nerveux que d'habitude. Il sait qu'il joue son avenir politique et son avenir tout court d'ailleurs. Alors plus que jamais, il est déterminé à accomplir son plan diabolique, mettre hors d'état de nuire l'état-major de la section d'assaut qui se repose en ce moment à l'hôtel Hanselbauer sur les bords du lac. Mais pour que ce coup de filet réussisse, il faut les prendre au saut du lit à l'improviste. À 6h30, les voitures s'arrêtent devant l'hôtel. Hitler et ceux qui l'accompagnent en sortent l'arme au poing. Ils gravissent le perron au pas de charge. Dans un vacarme assourdissant, ils enfoncent les portes des chambres et se saisissent des SA qui y sont plongés en plein sommeil. Au total, une quinzaine de gradés des sections d'assaut sont arrêtés. Parmi eux, Hans von Spreti-Weibar, le petit ami de Röhm, qui est aussi son aide de camp. Hitler se dirige ensuite vers la chambre de son vieux camarade. Les coups violents contre la porte font sursauter le chef des SA qui, torse nu, ouvre à Hitler. La stupeur le saisit. Le chef du gouvernement de l'Allemagne en personne se dresse devant lui et il est en train de le braquer. Hitler éructe : « Röhm, tu es un traître. Tu vas maintenant payer pour tes crimes. Habille-toi, et vite. En 10 minutes, l'opération est terminée. Elle a été rondement menée. Un chef de gang vient de neutraliser un clan rival. Al Capone n'aurait pas fait mieux à Chicago. Sauf que là, c'est un homme politique qui vient de faire le coup. Mais Hitler est aussi un Führer. En prenant la tête du commando, il a justifié ce titre dont il s'est affublé. Il vient de prouver qu'en toutes circonstances, c'est lui le Führer, c'est-à-dire le guide de son peuple. Après son coup de main, Hitler repart pour Munich, laissant enfermer dans la cave de l'hôtel les hommes qu'il vient d'arrêter. Un autobus va bientôt les conduire à la prison munichoise de Stadelheim, où ils vont être confiés aux bons soins des SS. Oui, là, c'est plus les SA, c'est les SS. Et avec les SS, les sections spéciales, le sang va couler à flot, on peut s'en douter. Et pour qu'Hitler se déplace en personne afin d'arrêter son ami, il faut que l'affaire soit grave. Depuis un an, le national-socialisme est au pouvoir et l'Allemagne ne tolère plus le désordre, d'où qu'il vienne. Mais Röhm est un homme indiscipliné qui a toujours recherché une vie aventureuse, une vie borderline. Alors pour Hitler, un mot d'ordre s'impose. Il faut supprimer Röhm. Il faut rétablir l'ordre. En 1934, Ernst Röhm a 46 ans. C'est un Munichois dont le père est cadre des chemins de fer du royaume de Bavière. Le jeune Ernst se rêvait soldat. Il suit les cours de l'Académie militaire de Munich et à 20 ans, le voici lieutenant. La Première Guerre mondiale lui offre l'occasion de se montrer courageux sur le front de l'Ouest. Blessé plusieurs fois, ses cicatrices sur le visage contribueront à asseoir sa réputation d'homme de guerre. La défaite de l'armée allemande en 1918, Röhm n'arrive pas à y croire. Ce sont les bourgeois, ce sont les juifs, ce sont les communistes qui ont planté un coup de poignard dans le dos des soldats qui risquaient leur peau sur le front pendant que les embusqués faisaient des affaires. Comme beaucoup d'officiers, Röhm estime que la guerre n'est pas finie. Maintenant, il va falloir venger les morts au champ d'honneur en s'en prenant aux responsables de la défaite, les embusqués de l'arrière. Il rejoint alors une formation paramilitaire, le Point de Fer. Et rien que le nom, c'est tout un programme. Au cours d'une réunion qui se tient un soir au Deutsches Reich Hotel de Munich, il fait la rencontre de sa vie en la personne d'un ancien soldat paumé qui cherche une raison d'espérer. Cet homme a pour nom Adolf Hitler. Les deux anciens soldats vont sympathiser. Hitler parle à Röhm du petit parti dont il est membre depuis peu, le Parti des Travailleurs Allemands, qui sera bientôt rebaptisé Parti National-Socialiste des Travailleurs Allemands. Les deux hommes décident qu'il est temps de se lancer ensemble dans une aventure qui doit changer le visage de l'Allemagne. Röhm sera chargé de tout ce qui est militaire, tandis que la politique sera le domaine d'Hitler. Il crée une milice, la Sturmabteilung, en abrégé la SA, une formation violente qui, derrière son apparence de service d'ordre, est là pour intimider les adversaires du parti. En 1923, Hitler et Röhm se pensent suffisamment forts pour tenter un coup d'État visant à renverser la République allemande. Ils vont vite déchanter. Ce putsch de la brasserie, comme il est surnommé, va se terminer dans la prison bavaroise de Landsberg, où Hitler et Röhm purgeront 9 mois ferme. Mais au lieu de les avoir calmés, leur échec les a requinqués. Pendant leur détention, ils ont eu le temps de réfléchir et ils ont pris conscience qu'ils n'arriveront jamais au pouvoir par la force. C'est par les urnes qu'ils devront gagner l'Allemagne. La politique doit désormais prendre le pas sur la force. Röhm n'a pas encore dit son dernier mot, mais c'est Hitler qui, pour l'instant, a pris le dessus. Du coup, Röhm tourne en rond. Il est désœuvré. Son goût pour les hommes est épinglé par la presse et fait mauvais genre dans la SA. Hitler lui-même semble le snober. Alors un jour, sur un coup de tête, il part. Il part très loin, loin, au-delà des mers. C'est la Bolivie qui va l'accueillir. Il y est instructeur militaire. L'Allemagne est désormais derrière lui. Sauf que la crise économique qui va s'abattre sur l'Amérique et l'Europe en 1929 va changer la donne. Aux élections législatives de 1930, Hitler arrive en deuxième position derrière les socialistes. C'est un triomphe inespéré qui suscite les espoirs les plus fous. Le pouvoir semble à portée de main. Et Hitler a besoin de Röhm, de son sens de l'organisation et de ses méthodes expéditives. Alors, il le rappelle à ses côtés. Mais entre les deux hommes, quelque chose s'est brisé. Depuis qu'il a le vent en poupe, Hitler s'embourgeoise. Le chef du parti national-socialiste fréquente assidûment l'oligarchie allemande en vue de l'amadouer. De son côté, Röhm reste droit dans ses bottes de cuir. Il est du côté du peuple, lui, et il entend bien le faire triompher, le peuple, le moment venu. Le volet socialiste du programme du parti, c'est Röhm. Depuis son retour d'Amérique latine, il est le chef incontesté des SA, ses chères chemises brunes. Ces hommes sont au nombre de 400 000 quand l'armée allemande ne peut dépasser les 100 000 soldats. C'est du moins ce que les vainqueurs de la Première Guerre mondiale ont inscrit dans le traité de Versailles de 1919. Röhm ne peut que constater cette évidence. Le vrai chef d'état-major des armées allemandes, c'est lui, avec ses SA. Car les armées allemandes, c'est pas grand-chose. En bonne logique, il imagine donc l'absorption de l'armée régulière par sa milice, par ses SA. Impensable il y a encore quelques années, l'idée devient réalité à partir du moment où Hitler devient chancelier. Oui les amis, car le 30 janvier 1933, Hitler et ses amis à lui arrivent au pouvoir. Mais la tension entre Hitler et Röhm devient vite un problème pour le parti, et pour la société allemande d'ailleurs. Dans les premiers mois de sa prise de fonction, Hitler est encore fragile politiquement. Il peut perdre le pouvoir, comme n'importe quel chef de gouvernement. Il faut donc séduire, rassurer, cajoler. Röhm, il fait peur, lui, avec son idée de deuxième révolution qu'il exprime un peu partout. D'abord, il alarme l'armée régulière, la Wehrmacht, qui refuse de passer sous la coupe d'un tel rustre. Il inquiète aussi les industriels, les banquiers allemands qui sont terrorisés à l'idée d'être nationalisés par ce socialiste. Et surtout, il embarrasse les dirigeants du parti qui n'aiment pas beaucoup ce genre de profil. Un frondeur en puissance, une forte tête. Un rebelle à toute autorité. Himmler, Heydrich, Göring, tout ce petit monde grogne et quand il grogne, c'est toute l'Allemagne qui tremble. Sauf Röhm, toujours aussi droit dans ses bottes de cuir et qui n'imagine pas un seul instant ce qui va lui arriver. De son côté, Hitler tergiverse. Il a des scrupules à se débarrasser de son vieil ami. Non pas par sentimentalisme, mais parce que Röhm, avec tous ses SA, pèse de plus en plus lourd. De 400 000 hommes en 1933, la SA est passée à 4 millions d'hommes en 1934. Hitler mesure le risque qu'il prend en s'attaquant aux SA et surtout à leur chef. Il est maintenant pris en étau entre les forces conservatrices du pays, à qui il doit son poste de chancelier, et la pression révolutionnaire des SA. Le 20 juin, le président de la République allemande, le vieux maréchal Hindenburg, convoque Hitler pour lui dire « Si le problème de la SA n'est pas résolu de manière définitive, je décrète la loi martiale et je confie le pouvoir à l'armée. » En sortant de l'entretien, Hitler est blanc comme un linge. En clair, s'il ne veut pas perdre le contrôle de la situation et le pouvoir, il lui faut agir vite, très vite. C'est alors que le trio Himmler-Heydrich-Göring lui suggère une idée diabolique: faire croire aux Allemands que Röhm et ses hommes sont en train de monter un coup d'État et qu'ils vont renverser le régime. Le service de renseignement de la SS est mis à contribution pour dresser une liste de personnes à éliminer. L'opération est montée dans le plus grand secret durant tout le mois de juin. L'armée est prête à agir le moment venu. On n'attend plus que l'ordre d'Hitler pour passer à l'acte. Le 28 juin, Hitler quitte Berlin en avion pour se lancer dans une tournée de plusieurs jours en Rhénanie-Westphalie, dans l'ouest du pays. Mais le lendemain, à la surprise générale, il décide de tout annuler. Il fait arrêter son escorte près de Bonn, à l'hôtel Dresden, à un hôtel de charme sur les rives du Rhin. Une cellule de crise se met en place. Göring et Himmler, restés à Berlin, abreuvent Hitler de télégrammes et de coups de fil, lui annonçant l'imminence du putsch des SA. Mais c'est de l'intox, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de putsch. Mais là, il y a plein de télégrammes, quoi. C'est super inquiétant. Ça vient d'Himmler et Göring, ça peut pas être des affabulateurs. La situation est grave. À 2h du matin, l'avion d'Hitler décolle de Bonn, direction Munich. 3 heures plus tard, il est dans la capitale bavaroise, où il convoque les deux principaux responsables locaux de la SA. Il leur crie « Traître, vous êtes arrêtés, vous allez être fusillés !» Il faut maintenant s'occuper de Röhm, l'instigateur de ce pseudo-complot auquel Hitler fait semblant de croire. Ou peut-être qu'il y croit vraiment, après tout. Göring et Himmler ont vraiment bien travaillé en l'inondant d'informations plus ou moins fantaisistes. Peu importe, de toute façon, il était grand temps d'agir. Röhm devenait clairement gênant. Et voilà donc la petite escorte menée par Hitler, qui roule maintenant en direction de Bad Wiessee, où Röhm prend quelques jours de vacances. Et je vous ai raconté, au début de notre aventure, la façon brutale avec laquelle Röhm et ses compagnons avaient été saisis au saut du lit et jetés dans un autocar direction Munich. À 9h30 du matin, ils sont incarcérés. À 10h, Hitler déclenche l'opération Colibri. C'est le signal des arrestations à travers tout le pays. Les listes constituées par Heydrich font merveille. Le camp de concentration de Dachau se remplit rapidement. On en profite aussi pour exécuter divers opposants qui n'ont rien à voir avec la SA, dont par exemple l'ancien chancelier Kurt von Schleicher, ainsi que sa femme, tant qu'à faire. Voilà, tiens, bah, tu veux pas le quitter, bah tu viens avec nous, c'est parti. Officiellement, il s'agira là d'un double suicide. Ah, l'amour passionnel, que voulez-vous ? Dans la cour de la prison, où ont été enfermés Röhm et ses compagnons, les premières exécutions ont lieu à partir de 17h. C'est le Führer qui l'exige ! En joue ! Feu ! Commande Dietrich, un chef de la SS qui se délecte du spectacle. Dans la soirée, Hitler regagne la chancellerie à Berlin. Le lendemain matin, 1er juillet, c'est le début des vacances d'été pour les enfants des écoles allemandes. Mais dans chaque famille, c'est le coup d'état des SA, courageusement déjoué par Hitler, qui alimente les conversations. La presse allemande félicite le Führer. Les Français aussi gobent la théorie du complot. Le journal Le Temps, toujours bien informé sur les questions internationales, présente en une le portrait du capitaine Röhm, instigateur du complot. Dans l'Humanité, émanation du Parti communiste, on décrit l'Allemagne fasciste en pleine crise. C'est ce que pensent de nombreux observateurs. La crise interne du Parti national-socialiste laisserait présager la fin prochaine d'Hitler. L'habileté d'Hitler consiste alors à calmer rapidement le jeu.
Nimm dich in acht vor blonden Frauen.
Rudolf Hess, l'un de ses très proches, intervient à la radio en déclarant
« Le Führer est fidèle envers la SA, comme les vieux membres de la SA lui restent fidèles. »
Le Führer a puni les coupables. Le message est clair, ce n'est pas la SA qui a été condamnée dans son ensemble, mais seulement quelques-uns de ses dirigeants égarés. Ainsi reprise en main, muselée et décapitée, la SA cesse d'être un danger pour le régime. Quant à Röhm, son sort restera en suspens pendant 24 heures. Hitler hésite, mais Himmler et Göring le persuadent de le faire exécuter. Alors, Hitler appelle le commandant du camp de Dachau, Theodor Heicke. Il est 13h, ce dimanche 1er juillet, lorsqu'Heicke et le directeur de la prison pénètrent dans la cellule 474. Röhm est là, torse nu, assis sur son lit. « Vous avez 10 minutes pour vous suicider !» ordonne Heicke en lui tendant un pistolet. Röhm réplique « Si je dois être tué, laissez Adolphe le faire lui-même. » 10 minutes plus tard, n'entendant aucune déflagration, les deux hommes reviennent et abattent et Ernst Röhm. Ses derniers mots seront « Mein Führer, Mein Führer ». Puis, on fera disparaître son corps dans la nuit. Même si Göring a détruit dès le 2 juillet les listes de purges, on estime le nombre de victimes à près de 200. Les longs couteaux ont fait leur travail. Hitler a atteint son but. Éliminer ses concurrents, tout en rassurant le pays. Hélas, aussi inhumaine qu'elle soit, cette nuit des longs couteaux n'aura été qu'un maigre aperçu de ce que l'Allemagne nazie allait infliger au monde entier en matière de crimes dans les années à venir.
Merci d'avoir écouté Entrer dans l'Histoire. Retrouvez Laurent Deutsch du lundi au vendredi de 15h à 15h30. Dans un instant, retrouvez Laurent Gérard sur RTL.
Des sites de généalogie en ligne révèle une véritable passion des Français qui sont de plus en plus nombreux à enquêter sur l'identité de leurs ancêtres. Bonjour Philippe de Villiers.
Salut la gueuse.
Décidément, je ne me ferai jamais à cet olifant. Alors.
Et pourtant, il illustre parfaitement ton sujet.
Oui.
L'olifant existait déjà au Moyen-Âge, en France, comme la famille le joli de Villiers de Saint-Ignon. Je n'ai pas besoin d'arbre généalogique pour le savoir.
Écoutez, on peut le vérifier si vous voulez. Alors, je suis justement connectée sur généalogie.com.
Bah dis donc, tu verras ce que c'est qu'un Français de souche.
Ok, alors je tape Philippe de Villiers. Voyons voir ce que je récolte. Ah bah dis donc, c'est bizarre, hein.
Qu'y a-t-il de bizarre, la bougresse?
Votre arrière-grand-père s'appelait Mustapha et gagnait sa vie comme chamelier en Algérie. Vous étiez au courant?
Qu'est-ce que tu racontes? C'est une plaisanterie, elle est de fort mauvais goût. Laisse donc l'humour aux amuseurs Cavrivière et Vizorek. Ils sont plus qualifiés que toi.
Oui, oui, vous avez raison. Mais c'est pas une blague, il était marié à une certaine Latifa qui vendait des dattes sur le marché de Tizi Ouzou.
Comment? Tu sous-entends que je ne serai pas un Français de souche, mais un Français de babouche.
Ah. Écoutez, oui. Regardez, c'est écrit noir sur blanc.
Mais... Ah
Il va défaillir.
Ma parole, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Zabé? Alors, que je me mets à parler comme un Mahométan. Je vais devoir remplacer les fiers destriers de mon puits du fou par des dromadaires. Zarma, Hajetroussum.
L'événement musical de ce mois de juin, c'est le premier single tiré du nouvel album de Vanessa Paradis qui sortira en octobre prochain et qui a été écrit en collaboration avec son ami Étienne Dao. Bonjour Étienne Dao.
Oui, bonjour.
Oui. D'accord. Non, c'est pas William l'énergie, c'est Thomas Soto.
Oh, allergie. Achoum, pique cool, ça gratte.
Ah, ça, je crois que j'ai compris, vous faites une allergie, c'est ça?
Oui.
D'accord, mais allergie ou pas, vous avez donc composé un magnifique album pour Vanessa Paradis, qui n'avait pas enregistré de disque depuis 7 ans. Ça s'est bien passé?
Mais ça radie rock fort.
Vanessa chante 10 chansons sur les radis et le roquefort.
Du rock, tu l'entends trop fort, ouïe, mes oreilles.
Ah oui, alors Vanessa Paradis chante trop fort. Vous êtes sûr? Parce que dans mon souvenir, elle chante plutôt comme ça. Joe le taxi, va pas partout.
Oui, chante de Montaigu.
Chante de Nantes à Montaigu?
Non. Et Montaigu.
Ah, c'est vrai que c'est sa marque de... Bah oui, sa marque de fabrique. En tout cas, merci Étienne Dao pour avoir permis ce nouvel album tant attendu. On vous souhaite un bel été.
Monteur Med.
Hein?
Vous allez faire moniteur au Club Med?
Docteur Mohamed.
Ah,
allergie.
Docteur Mohamed, oui. Ah, bah zut,
on va demander.
Oui, bah désolé pour votre... Je crois qu'il est parti, Docteur Mohamed.
Et
oui.
Vous soyez...
Les psychologues sont unanimes, le mois de juin est un mois stressant, ennuyeux et épuisant pour tout le monde. Mais visiblement pas pour notre ami Fabrice Lucchini qui enchaîne tournées et tournages. Bonjour Fabrice.
Yankelevitch a dit « Si juin est plein de laborieux, tout l'an sera grincheux ». C'est énorme, hein?
Oui.
Tu vois qui c'est, la Jade Yankelevitch?
Oui, oui,
Yankelevitch. C'est pas un tennisman de Roland Garros, hein?
Oui, merci.
On est d'accord, c'était un philosophe.
Oui, je vois très bien, Fabrice, vous m'énervez. Et vous êtes sûr que c'est lui qui a parlé du terrible mois de juin?
On s'en fout, la Jade, on joue pas au qui a dit quoi. Ce qui compte, c'est vrai. En juin, on est tous en PLS. Oui. On a fait réviser la bagnole, on s'est fait épiler le maillot, on attend le départ pour Center Parcs, mais il faut encore se fader les corvées de juin.
Les fameuses corvées de juin, mais lesquelles par exemple?
Je sais pas moi la Jade, il n'y a qu'à se baisser pour en trouver. Tiens, la kermesse de l'école par exemple,
oui.
Où il faut apporter un gâteau fait maison.
C'est
fait
meilleur.
Maison.
C'est meilleur.
Oui. T'as aussi l'ado boutonneux qui n'a rien foutu de l'année et qui stresse tout le monde à cause de Parcoursup.
Oui.
La petite dernière qui est née au mois de juin, un mois record pour les naissances, et qui veut fêter son anniversaire à la maison. C'est sans oublier le pire, la Jade, la quoi? Purge ultime du mois de juin, le concert de fin d'année de la chorale.
Non, mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous avez contre les concerts de fin d'année de la chorale? Il y en a un très bien, vendredi, à Saint-Pierre-de-Neuilly. Non. C'est le Messie de Handel. Oui, je chante, oui.
Mais c'est non.
Aussi.
Oui mais non.
Messie.
Je ne suis pas que drôle.
Bon, j'ai rien contre les chorales,
oui.
Mais j'ai rien contre. Hein. Mais je prends par exemple le Requiem de Verdi. T'écoutes pas ça tous les jours en faisant ton repassage. Mais si tu décides de l'écouter, tu vas déboucher un Bourgogne et choisir la version dirigée par Riccardo Muti.
Tout à fait.
Alors que si tu te farcis le Requiem à la médiathèque communale, interprété par des boomers en pleine forme qui postillonnent, tu vas avoir envie de mourir.
Oui, ben c'est bien observé Fabrice. Mais alors, comment faites-vous pour survivre au mois de juin?
Je fais comme Yankelevitch qui a dit un jour, quand on était invité à la corvée du mois de juin, qu'il emmerdait. Yankelevitch a dit, je cite de mémoire, « Je peux pas, j'ai grand frais ».